cinquième et dernier temps de notre série de rediffusion consacrée aux voyages politiques, scientifiques et de découvertes. Aujourd'hui, les explorateurs européens. Quelles furent les motivations des explorateurs européens au XVIIIe et au XIXe siècle quand ils sont partis pour combler les blancs de la carte? Comment ont-ils imaginé les terres qu'ils allaient parcourir? Comment ont-ils mis en œuvre leurs projets? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec trois spécialistes, Hélène Blé, Jean-Philippe Zanco et Bénédicte Savoie, dans une émission diffusée pour la première fois dans la Fabrique de l'Histoire le 10 septembre 2015. Quand j'étais petit, j'avais une passion pour les cartes. Je passais des heures à regarder l'Amérique du Sud, ou l'Afrique, ou l'Australie, et je me perdais dans toute la gloire de l'exploration. En ce temps-là, il restait beaucoup d'espace blanc sur la Terre, et quand j'en voyais un d'aspect particulièrement prometteur sur la carte, mais ils le sont tous, je mettais le doigt dessus, et je disais, quand je serai grand, j'irai là. C'est un extrait du « Au cœur des ténèbres », bien évidemment, l'œuvre de Joseph Conrad, et c'est Marlowe qui parle. Nous sommes en 1899, à la toute fin du 19e siècle. C'est, pourrait-on dire, peut-être le terme de notre discussion d'aujourd'hui, cette fin du 19e siècle, puisque nous allons nous concentrer sur la période qui court de la moitié du 18e jusqu'à cette fin du 19e siècle. Hélène Blé, bonjour. Vous citez dans un de vos articles la présence et l'intérêt de ce texte-là, de « Au cœur des ténèbres », comme étant un des textes littéraires qui fait référence justement à cette envie de partir au loin pour découvrir scientifiquement le monde.
Oui, effectivement, c'est un très beau texte hein, qui nous fait tous rêver, et les historiens des voyages, sans doute les premiers. Alors, paradoxalement, je dirais peut-être simplement que les blancs de la carte, c'est souvent l'attrait du voyage, mais que contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, à la fin du 19e siècle, il y a de plus en plus de blancs sur la carte, puisqu'on arrive dans une cartographie scientifique qui va reconnaître qu'il y a des zones qu'on ne peut pas cartographier, que l'on ne connaît pas.
C'est-à-dire que ça n'est pas un processus continu qui irait du non-connu vers le connu, mais c'est un processus qui procède par à-coup, parce qu'on va, entre-temps, avoir des outils plus précis de connaissance du monde.
Voilà, exactement. Et c'est toute la problématique du voyage de découverte ou du voyage scientifique qui interroge ce processus linéaire et dont les historiens ont beaucoup montré ces dernières années qu'il fallait sans cesse le remettre en question, parce que les voyages scientifiques, c'est plutôt une série de questions qui sont en permanence posées pas toujours résolues.
Anaïs Kien.
Oui, et puis Hélène Blé, on voit immédiatement poindre cette ambivalence entre ce désir d'aventure et en même temps cette exigence de scientificité, ce besoin de se légitimer, de se faire financer, de se voir même parfois passer des commandes lorsqu'on est un voyageur scientifique. Alors il y en a toutes sortes, mais on entend bien cette tension entre ce désir d'aventure, cet inconnu, le risque de la rencontre, le risque de la confrontation au réel et cette scientificité dont on va parler aujourd'hui.
Oui, les voyages scientifiques dès le XVIIIe siècle, ce sont des entreprises hein, qui doivent être financées, préparées, encadrées par toutes sortes d'institutions, les académies, les sociétés de géographie, les ministères qui vont choisir de financer ou pas. Et donc là apparaît dans beaucoup de cas un lien très étroit entre la science et le politique. On le voit beaucoup au XIXe siècle dans tous les voyages et les missions scientifiques liées liée à l'expansion coloniale.
Mais avant cette expansion coloniale, même au XVIIIe siècle, celui qui part, part avec une sorte de petit vadémécum, il prépare son voyage. Sait-on comment on se prépare, mettons, à partir pour le Pacifique, comme beaucoup d'explorateurs le font, aux alentours de 1750-1760, Hélène Blais?
Oui, on a ces archives qui sont les instructions de voyage, hein, qui sont rédigées dans des bureaux parisiens et qui sont des sortes de cadres normatifs qui vont inciter les voyageurs à orienter leur regard, à faire des observations en fonction des questions qui leur sont posées et donc à décrire le monde hein, suivant des attendus très précis.
Anaïs.
et parfois, on décrit son projet de manière extrêmement précise. Vous évoquez dans un de vos articles la méthode scientifique que rédige Freycinet pour son grand voyage, où il rubrique finalement toutes les dimensions du regard auxquelles vont être confrontés Freycinet lui-même et son équipe en répartissant les tâches, en quadrillant cette possibilité de découverte du monde avant même d'être parti.
Oui, tout à fait. Alors Freycinet, c'est 1817 et c'est un moment intéressant dans l'histoire des savoirs parce que on est à une époque où on commence à classifier les disciplines, à distinguer certains champs de la science et on voit avec ces grands voyages autour du monde une ambition universaliste qui subsiste. Donc Freycinet rédige pour ses marins un immense questionnaire qui concerne à la fois l'observation de la nature, des océans, des hommes, etc., avec l'idée que chacun doit pouvoir tout voir et tout raconter sans spécificité disciplinaire. Donc on voit aussi là une tension entre le monde académique qui s'oriente en discipline et le voyageur, l'idéal du voyageur qui est de pouvoir tout voir et tout raconter.
Alors cet idéal du voyageur, il est incarné, Bénédicte Savoie, par une personnalité hors norme, celle de Alexander von Humboldt, sur lequel vous avez travaillé avec d'autres pour une grande exposition qui a eu lieu l'année dernière à l'Observatoire de Paris et donc qui a donné lieu aussi à un très beau catalogue que vous avez publié avec le co-auteur de cette exposition qui était avec vous, Bénédicte Savoie. Cet Humboldt, lui, part en 1799. Il est nourri de l'esprit de la Révolution française, de l'esprit des Lumières, comme on dit généralement. Il n'est pas encore totalement dans cette classification qui va avoir lieu un peu plus tard et que décrivait Hélène Blais en 1817 pour Freycinet, où il est déjà dans cette vision que le savoir qu'il va cumulé pendant son voyage en Amérique latine, en Amérique du Sud, et bien ce savoir-là va devoir ensuite être classifié.
Oh, je pense qu'il est déjà dans cette logique-là et qu'il contribue à la former. Humboldt, il a envie de partir n'importe où. C'est un Berlinois, il s'ennuie à Berlin, comme tous les vrais Berlinois. Et en fait, il veut partir en Égypte en 1799. Son idéal, c'est partir. Il a de l'argent, sa mère vient de mourir, il a attendu qu'elle meure pour partir, il attendait ça vraiment depuis longtemps. Et il arrive trop tard pour le bateau d'Égypte et c'est comme ça qu'il décide finalement de partir en Amérique du Sud.
À quoi ça tient tout de même ?
À quoi ça tient ? C'était un transport raté et il part en ayant extrêmement bien préparé ses instruments. Il achète ses instruments à Paris, il décrit très bien comment on peut acheter les instruments à Paris à cette époque-là, autour de 1800, que ses instruments de mesure qu'il va emporter avec lui ne se trouvent qu'à Paris même. Et donc avant de partir, que ce soit l'Amérique du Sud ou l'Égypte, il prépare ses instruments, ses outils, c'est des caisses entières. Il part vraiment bien équipé et il est accompagné d'un dessinateur. Et ça aussi, et en particulier pour le point de vue de l'historien de l'art, c'est intéressant. C'est le moment aussi où se met en place des codes, d'abord des méthodes du regard, comme vous disiez, mais aussi des méthodes de la représentation de ce qu'on voit, de la nature objective. C'est des choses très sensibles qui sont à mi-chemin entre l'histoire de l'art et l'histoire des sciences, qui se mettent en place avec Humboldt, autour d'Humboldt à ce moment-là.
Et c'est lié à l'expédition d'Égypte de Bonaparte, c'est-à-dire que c'est la même période. On part avec, alors évidemment, l'expédition d'Égypte, ce sont des dizaines et des dizaines de personnes, mais pour Humboldt, c'est beaucoup plus modeste. Mais on part avec cette ambition de dessiner, de faire des croquis, de relever des cartes, de collectionner des végétaux, de la botanique, de ramener 6000 espèces différentes de végétaux, par exemple, pour le Muséum d'Histoire Naturelle, etc., etc.
Il y a une logique de collection et puis il y a une logique de mesure. On mesure des températures, des hauteurs, des choses comme ça.
Et pour mesurer, il faut avoir une véritable connaissance du globe. Cette connaissance, elle est relativement récente. Ce sont des relevés du milieu du XVIIIe siècle qui permettent de savoir quelle est la dimension du globe, de repérer les latitudes, les longitudes et d'avoir une vision plus précise de ce globe pour pouvoir justement ensuite mettre en carte. Vous êtes spécialiste de cette cartographie, Hélène Blais.
Oui, alors effectivement, hein, la mesure notamment des arcs du méridien va donner des cadres, hein, à une géométrie, une normalisation du monde. Et à partir de ça, à partir de ces repères, on demande aux voyageurs de continuer à remplir le canevas géométrique. Mais pour revenir sur cette question des instruments, qui est très intéressante, il y a ces caisses et puis il y a aussi l'apprentissage avant, parce que souvent les voyageurs ne savaient pas utiliser ces instruments, toujours très perfectionnés et plus perfectionnés. Et on voit beaucoup de lieux, notamment à Paris, pour ce que je connais, mais qui draine des voyageurs de toute l'Europe, où on apprend à se servir
des
instruments.
Quels sont ces
lieux ? L'Observatoire de Paris, notamment, et ce personnage d'Arago, qui est central pour cette époque, hein, qui va prendre sur lui d'initier les voyageurs au maniement d'un certain nombre d'instruments de mesure, pour être sûr que les mesures seront justes. Et donc là, ça renvoie à toute une autre question, qui est celle de la validation et de la preuve, hein, qui est au centre au moment du retour du voyage. Il faut être sûr que le voyageur ne raconte pas n'importe quoi.
C'est au centre d'ailleurs même de ce questionnaire que vous évoquez dans votre article, ce questionnaire de Fraissinet, où la question de faire la preuve de ce qu'on aura vu va intervenir au moment même où on fera ces observations et qu'il va falloir rapporter les circonstances de cette découverte et de cette observation.
Voilà, et effectivement, ces tableaux de mesures qu'évoquait Bénédicte Savoie et qui sont, chez Humboldt, on a des tonnes et des tonnes de tableaux. On ne sait pas très bien pourquoi les voyageurs mesuraient toutes les 5 minutes la température de l'air pendant 3 ans de suite. Et en fait, on peut le comprendre dans un processus de validation et de légitimation leur voyage, parce que c'est en rapportant ces documents qu'ils se donnent aussi une assise scientifique.
Bénédicte Savoie, vous nous disiez, il a failli partir pour l'Égypte, il part pour l'Amérique latine, donc l'Amérique du Sud, on se dit, mais il n'a pas vraiment, il a envie de partir, c'est ce que vous expliquez, mais il n'a pas vraiment une connaissance précédant son voyage. Qu'est-ce qu'il a en tête, d'après ce qu'on croit savoir? Je crois savoir qu'il a brûlé ses papiers, donc c'est peut-être un peu difficile de savoir ce qu'il a en tête vraiment, mais il a écrit des dizaines et des dizaines de lettres qu'il a envoyées à ses correspondants. Donc on a un peu une petite idée de ce qu'il voulait, en l'occurrence, Alexander von Humboldt.
Tout à l'heure, en disant il a envie de partir, je me disais, il faut quand même préciser qu'il n'a pas seulement envie de partir. Il est ingénieur des mines, il a fait un cursus d'ingénieur très rapide, il a fait des études très rapide, il s'intéresse.
Il est brillant avant même d'arriver à Paris, il est connu avant même.
Il n'est pas connu, il est formé par une mère qui s'est beaucoup occupée de leur éducation et qui leur a donné notamment comme précepteur à son frère Guillaume de Humboldt et à lui, des gens qui écrivaient des romans pour enfants, dont l'un qui avait écrit le Robinson Crusoe du XVIIIe siècle, que tous les enfants ont lu, donc réécrit une espèce d'histoire d'aventure. On sait que donc qu'il avait une imagination du voyage venue par cette pédagogie du XVIIIe siècle avec des livres illustrés et tout, ça c'est évident. On sait qu'il avait une connaissance d'ingénieur très précise. Il avait lui-même inventé des machines pour mieux travailler dans les mines, pour mieux protéger les ouvriers des mines. Il avait un intérêt anthropologique, un intérêt politique à découvrir le monde. Donc il est formé, il est très formé. Il part pas la fleur dans la bouche ou sur l'oreille sans savoir ce qu'il fait. Et il part. Quelle est son intention exacte? À mon avis, c'est difficile à dire, mais l'idée de connaissance et de formation de soi-même, ces deux choses ensemble sont liées, et la publication est évidemment un projet dès avant le départ, comme le disait
Anaïs. Oui, ça c'est très étonnant, parce qu'on se dit, est-ce qu'on est plus proche d'un esprit encyclopédique, Hélène Blais, ou est-ce qu'on est déjà dans un esprit de spécialiste qui sera l'esprit du dictionnaire, de l'ère des dictionnaires du 19e siècle, c'est-à-dire de classification, comme vous l'expliquiez, c'est vrai, Linné, Cuvier, etc., etc. Et tous ceux qui œuvrent à cette époque-là, la classification des espèces après Buffon, par exemple, sont des gens qui ont volonté de classer et de séparer les savoirs pour les mieux les maîtriser d'une certaine façon.
Mais je dirais que c'est tout ce qui fait l'intérêt de cette période, hein, qui va du milieu du 18e au milieu du 19e, avec un esprit de curiosité qui est encore très fort et qui oblige à cette ouverture d'esprit, de curiosité allant dans tous les sens qu'ont beaucoup de voyageurs à cette période-là, et puis des exigences académiques qui sont, elles, de plus en plus normées et liées à des spécialités. Donc, on va voir les voyageurs et le principe même du voyage scientifique, hein, évoluer peu à peu, mais on a toujours ces personnages dont Humboldt est vraiment le plus grand représentant, hein, qui tente de garder cet esprit universel tout en alliant à la scientificité et aux exigences de précision, notamment dans les mesures qui sont là spécifiques de la période.
Et on en est surpris parce que on a cette impression de Pic de la Mirandole, mais en même temps qui appliquerait la rigueur scientifique à tous ses travaux.
Oui, tout à fait. Alors, ce que l'on peut peut-être dire, c'est que le cas de Humboldt est quand même très à part, hein, et que ce que l'on voit apparaître, c'est aussi une nouvelle forme de voyage qui est la mission scientifique, qui est un voyage collectif, donc où on a plusieurs personnes,
une équipe,
avec de plus en plus l'apparition justement de spécialités, hein, pour une publication commune à l'issue du voyage, mais dans cette tension, hein, avec les disciplines. Et l'expédition d'Égypte, qui a déjà été évoquée, est évidemment un pivot parce que ça va être un modèle. Hein. C'est d'abord un succès pour une expédition militaire qui a été un désastre. Donc politiquement, c'est toujours intéressant.
C'est raté, mais...
Voilà, mais on en garde le souvenir, hein, matériel, même puisqu'on a ramené des objets aussi.
Et puis, il y a cette fabuleuse description de l'Égypte.
Voilà, et cette description de l'Égypte qui va être vraiment un phare, hein, dans l'idée de la publication scientifique.
Anaïs Kim.
Oui, Jean-Philippe Zanko, bonjour, vous nous entendez?
Jean-Philippe Zanko?
Non. Oui, moi je vous entends très bien.
Bonjour.
Voilà. Voilà.
Alors justement, on parle de ces voyages heureux qui ont réussi à trouver un financement individuel, personnel ou institutionnel. Vous avez travaillé sur un certain Gaston de Roquemorel qui malheureusement échouera à proposer son projet d'expédition en 1843 après avoir fait plusieurs voyages lui-même. Est-ce qu'on assiste à la fin du 18e, au début du 19e, à un âge d'or de ces grands voyages d'exploration qui s'essouffleraient dans ces années 1840 où finalement les puissances publiques ne suivraient plus ces grands projets de découverte du monde en bateau?
Oui, on peut dire ça un petit peu. C'est assez compliqué, en fait, le contexte, parce que dans les années 1830-1840, les ministres de la Marine successifs sont eux-mêmes marins explorateurs, très souvent, et Roquemorel n'est pas le seul à proposer un projet d'exploration. Il y en a beaucoup d'autres qui proposent des projets d'exploration.
Il y a une inflation du projet d'exploration?
Oui, pour une raison simple, c'est que on a, comme disaient mes collègues tout à l'heure, on a là on voit arriver des personnages qui ont une culture scientifique et pas seulement humaniste comme au 19e siècle, des gens qui ont envie d'aller voir d'autres horizons, et le moindre officier qui a déjà participé à une circumnavigation ou qui est allé une fois ou deux en Atlantique ou dans le Pacifique a envie de monter sa propre expédition.
Ah oui.
Alors à ceci s'ajoute un autre souci, c'est que c'est une période de paix, les années 1820, 1830, 1840, et la marine connaît un sureffectif en matière d'officiers, et tous ces officiers-là s'ennuient parce qu'il ne voyage qu'en Méditerranée. En général, la pierre d'achoppement de leur carrière, c'est l'expédition d'Algérie, puis ça s'arrête là. Et ces gens-là ont envie d'aller plus loin.
Et justement, votre héros, en l'occurrence, Gaston de Roquemorel, il commence en Algérie, il fait partie de l'expédition d'Algérie, avant ensuite de tenter et de partir avec, comme second sur l'astrolabe de Dumont d'Urville. Donc, ça participe aussi, tout de même, cette marine, elle est aussi au service d'un pouvoir, et d'un pouvoir qui se fait colonisateur, un peu par hasard, dit-on, on ne sait pas très bien, en 1830 avec l'expédition d'Algérie, en l'occurrence Jean-Philippe Zanco.
Oui, tout à fait. Alors, Roquemorel, en fait, c'est un personnage qui est intéressant parce que son expérience reflète celle de beaucoup d'officiers de l'époque. Il attend une dizaine d'années en Méditerranée et tout de suite,
il fait des ronds dans l'eau.
Oui, voilà, si vous voulez. Même si l'expédition d'Algérie, c'était pas tout à fait...
C'est pas des ronds dans l'eau, là, en l'occurrence.
Voilà. Dès qu'il sort de l'école navale, il a envie de partir. Et en fait, il a la chance d'avoir son oncle, le baron de Puymaurin, qui est ministre de Louis XVIII, et qui inonde le cabinet du ministre de lettres de réclamation pour son neveu, en disant « Oui, mon neveu est brillant, il veut partir, etc. » Mais bon, ça ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas de place. Alors d'autre part, Roquemorel a été formé avant l'école navale et l'école polytechnique. Et donc, il a fréquenté ces grands savants dont on parlait tout à l'heure, Arago en particulier, dont il sera plus tard le chef de cabinet aussi. Et donc, en fait, pendant une dizaine d'années, Roquemorel se constitue un petit réseau en Méditerranée. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer l'ancien second de Dumont d'Urville, qui va lui proposer d'être second sur la deuxième expédition Dumont d'Urville, qui cette fois comprendra deux navires.
Alors, tout de même, Hélène Blais, vous qui êtes spécialiste de cette conquête de l'Algérie et de la façon dont les géographes y ont participé, géographes et cartographes, et vous avez publié très récemment, c'était l'année dernière, un livre sur cette question, Le mirage de la carte, l'invention de l'Algérie coloniale. Cette expédition algérienne, ça n'est pas rien dans cette histoire qu'on raconte entre 18e et 19e siècle de l'évolution des voyages scientifiques, parce que voilà un territoire qui est totalement inconnu ou presque de ceux qui le conquièrent, qui se demandent s'il faut rester sur le bord de la mer et pas s'aventurer à l'intérieur des terres. Et si on s'aventure à l'intérieur des terres, il faudrait mieux savoir ce qu'il y a dans ces terres. Donc on va demander à des scientifiques, géographes, cartographes, de dresser la carte de ce territoire inconnu en l'occurrence.
Oui, alors ce sont des scientifiques, mais ce sont d'abord des militaires. Hein. Les cartographes qui vont œuvrer en Algérie appartiennent tous à des corps de l'armée. Et on retrouve là quelque chose qui est très fort pendant tout ce premier 19e siècle, c'est le monopole en pratique qu'exerce l'armée dans ses missions lointaines et ses voyages de reconnaissance. Donc effectivement, les Français, quand ils débarquent en Algérie, ne connaissent pas bien le territoire et encore moins les hommes qui y habitent. Et donc, on va lancer une grande entreprise de reconnaissance cartographique. Et quelques années après, mais quand même 10 ans après le débarquement, qui correspondent à 10 années de guerre, de toute façon, une mission scientifique aussi, là, avec toute une équipe de savants qui s'inspirent et qui se revendiquent du modèle de l'expédition
d'Égypte.
Oui. Et donc, c'est intéressant parce qu'on voit que là, le voyage savant ne précède pas la conquête, mais vient la compléter une décennie après. Ça va être une mission très compliquée avec une publication très très longue qui va s'étendre jusqu'à la fin des années 1860. Les savants ne sachant pas très bien pourquoi ils sont en Algérie, ce qu'ils doivent reconnaître. On a des exemples un peu loufoques de savants qui se retrouvent dans le désert et qui ne savent pas quoi chercher.
C'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire qu'entre ce désir exprimé par Humboldt et ceux de la fin du XVIIIe siècle de manger le monde, d'une certaine façon, de le manger à leur profit et pour mieux comprendre le monde dans lequel ils vivaient, et puis cette... perte de repères que vous décrivez de ces scientifiques envoyés malgré eux, contre eux ou avec leur accord, enfin en tout cas sans trop savoir ce qu'ils vont y faire, il y a quand même une différence de nature peut-être, Hélène Blais, entre l'un et l'autre.
Et oui, sans doute. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'eux voudraient faire, mais ils sont aussi dans un schéma politique qui demande des résultats. Je prendrai un exemple très rapide. Hein,
Et comment avoir des résultats lorsqu'on n'a pas d'objectifs prédéfinis ?
Voilà, mais il y a des résultats, mais qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce qu'attendent les pouvoirs politiques. Par exemple, en Algérie, il y a quelqu'un qui travaille sur les mollusques et qui va ramener une somme incroyable de dessins de mollusques. Et là,
ce n'est pas ce qu'attend le pouvoir politique.
Et il a un projet, en fait, il dit, mais moi, l'Algérie, les côtes algériennes, c'est bien, mais il faut que j'aille dans toute la Méditerranée et donc ça ne correspond plus à l'idée que lui il n'est pas intéressé par une connaissance fermée sur l'Algérie coloniale. Il s'intéresse aux mollusques. Donc il y a forcément ce décalage qui joue et l'impossibilité de contrôler toujours les savants sur le terrain.
Bénédicte Savoie.
Sur la jonction entre le politique et le scientifique, je pensais exactement au même moment aux missions qu'a lancé le roi de Prusse, qui étaient alors pas des missions de colonisation, bien sûr, l'Allemagne n'a colonisé personne pendant longtemps, mais ils ont envoyé des missions très importantes en Égypte, notamment sous Lepsius. Et là, l'objectif était clair. Ils étaient certes aussi dans le désert et dans le sable, mais ils cherchaient des objets égyptiens pour remplir les collections. Et je pense que ça, dans ces années-là, années 30, années 40, ça devient un motif extrêmement important, remplir les départements d'antiquité égyptienne qui se créent et qui sont d'abord pas très pleins dans les musées, et puis les antiquités mexicaines d'Amérique du Sud qu'on cherche aussi de manière active, aztèques, etc.
Anaïs Kia.
Et j'imagine que se pose aussi du coup la question de savoir comment collecter ces objets, comment les documenter. Est-ce qu'on les choisit uniquement pour leur qualité esthétique? Est-ce qu'on les documente? J'imagine que ça viendra progressivement, peut-être un peu tard même.
Il y a des très très belles lettres d'Humboldt dans les archives du Louvre actuellement, où Humboldt est devenu un peu vieux monsieur, il voyageait moins. Alors, il est quand même allé encore en Russie à 60 ans, enfin au fond de la Russie, mais il voyageait moins, et quand des explorateurs revenaient par exemple du Mexique ou d'Amérique du Sud et avaient rapporté des collections et des documentations de ces collections et tentaient de les vendre au Louvre, il y a une très belle lettre où Humboldt dit, voilà, vous pouvez acheter les objets, mais ne les achetez surtout pas sans les dessins. Sans les dessins, ces objets sont morts. Pour les faire parler, il faut les dessins. Et puis finalement, les objets sont maintenant au Quai Branly et les dessins sont en Angleterre.
Un extrait de La danse des Almées de Félicien David qui date de 1844, et cet extrait, c'est désert. Un extrait de Désert de Félicien David, une pièce de 1844 en l'occurrence. L'extrait, c'est La danse des Almées, interprétée ici par l'Orchestre de Chambre de Paris, dirigé par Laurent Sequilbé. Alors, tout de même, on a parlé des objets et on n'a pas parlé de ce que rencontrent ces explorateurs, ces voyageurs scientifiques. Et ce qu'ils rencontrent, c'est important parce qu'être un bon voyageur scientifique, c'est trouver le bon truchement, la bonne personne, celle qui va vous donner le plus d'informations sur l'espace que l'on veut parcourir pour pouvoir ramener des informations, comme vous le disiez tout à l'heure, Hélène Blais, les plus fiables possibles aux commanditaires.
Oui, évidemment, hein, c'est le nerf du voyage, hein, le mythe de l'explorateur solitaire ou même du voyageur scientifique qui n'aurait que sa caisse d'instruments doit être déconstruit, puisque la plupart de ces voyageurs sont accompagnés, ont des intermédiaires qui peuvent être des guides, des porteurs, des interprètes, et que tous ces gens-là jouent un rôle fondamental dans la collecte savante et dans la collecte des objets d'art aussi. Alors, pour l'historien, c'est un défi permanent parce que les traces laissées par ces personnages, par ces acteurs de l'histoire, sont ténues et que on a du mal à les identifier ou même à savoir quel était leur rôle. Mais c'est évidemment quelque chose auquel on s'attache beaucoup.
Ça rentre dans toute cette histoire qui est à l'œuvre aujourd'hui, l'histoire connectée, histoire globale, histoire mondiale, quelle que soit la façon dont on l'appelle, où l'intérêt passe aujourd'hui sur ceux qui permettent la rencontre, qui permettent le passage d'un monde à l'autre, les passeurs, les traducteurs, les marins, ceux qui, d'une certaine façon, servent de transition entre les deux mondes.
Oui, tout à fait, hein. Et c'est ceux qui n'ont pas forcément toujours eu voix dans l'histoire et qu'on essaye de faire ressurgir. Alors, je prendrais peut-être simplement l'exemple de la cartographie, hein. La carte est souvent une production européenne qui symbolise la précision, le mètre, etc. Mais quand on regarde les cartes qui sont faites lors de ces voyages et quand on les regarde attentivement, on trouve évidemment les traces, hein, de contacts, d'échanges. Alors, le mot échange ou contact, comme le mot contact est toujours dangereux parce qu'il suppose des relations iréniques et, et confortables, alors que il ne faut pas se leurrer qu'on est souvent dans des rapports de domination ou d'obligation, mais il y a toute une part des savoirs qui sont présents sur la carte, qui viennent de personnes qui ont été interrogées sur place. On le voit par exemple. Un seul exemple, hein, sur les cartes du désert, souvent les voyageurs, même les cartes dites scientifiques, donnent les mesures en heures de marche parce que c'est le seul indice qu'ils ont. Hein. Souvent, ils n'ont pas parcouru eux-mêmes les distances. Et donc, là, on se dit, ben, ils ont interrogé des gens. On va essayer de retrouver dans des lettres, dans des archives, la manière dont s'est passée cette interrogation.
Et vous expliquez que dans une expédition du côté de la presqu'île de Sakhalin, eh bien, au XVIIIe siècle, on raconte que ce sont les gens qui vivaient sur cette presqu'île qui dessinent dans le sable la forme de la presqu'île et qu'ensuite on trouve la trace de la reprise par la cartographie scientifique de l'époque de cette trace dessinée dans le sable. D'une certaine façon, il y a un passage d'une connaissance autochtone, locale, à une connaissance transportée en Europe à la fin du XVIIIe siècle.
Oui, ça, c'est un exemple bien connu, hein, du voyage de la Pérouse qui a été notamment analysé par Bruno Latour et qui montre qu'on a là une manière de mobiliser la connaissance éphémère, hein, la carte sur le sable, c'est ce qui s'efface immédiatement, et pour la rapporter en Europe, hein, et en faire une carte sur le papier qui est fixe. Mais ce qu'ont montré d'autres anthropologues, c'est que cette connaissance, elle était passée par une conversation, parce que la Pérouse ne s'est pas contentée de recopier la carte sur le sable, il se l'est fait expliquer.
Anaïs Kien.
Oui, Jean-Philippe Zanco, Gaston de Roquemaurel va rapporter énormément d'objets, va faire quelques observations ethnographiques. Est-ce qu'on a une relation peut-être de ces rencontres qui lui permettent d'éclairer l'histoire des objets qu'il rapportera en France ?
Pas tellement, en fait, puisque Roquemaurel, en fait, par exemple, sur l'expédition du Mont d'Urville, en tant que second, il était chargé de la tenue du journal de bord, et c'est un journal de bord qui restait inédit d'ailleurs, qui est toujours aux archives, mais qui extrêmement neutre, tout simplement parce qu'il était visé par son supérieur et il y avait pas une très grande amitié entre lui et Dumont d'Urville. Au niveau personnel, bien sûr, il y a des lettres, mais ce sont des lettres essentiellement qu'il écrivait à terre. Et alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que on a des lettres qui relatent un petit peu ses interrogations face à toute la collection d'objets qu'il avait ramené, mais après, une fois qu'il était à terre. Et là, on s'aperçoit effectivement que c'est assez. Là, il rencontre des gens aussi, mais après, en France, il y a un autre problème qui se pose, c'est ces objets, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, comme beaucoup, hein, et comme Dumont d'Urville avant lui d'ailleurs, Rocco Morel n'a aucun objectif de garder tous ces objets pour lui. Il a un objectif qui est complètement altruiste, c'est-à-dire il veut les donner. Il veut que les gens les voient, il veut faire un musée finalement. Et il envisage de donner tout à la ville de Toulouse. Mais en fait, ça n'intéresse personne à cette époque-là. Tout ça, c'est considéré comme des choses un petit peu exotiques, des sauvageries, comme on dit, et ça n'intéresse personne. Alors qu'aujourd'hui, finalement, la collection Rocco Morel constitue, le fond le plus important.
Qu'y a-t-il dans cette collection pour qu'y a-t-il dans cette collection pour que nos auditeurs salivent un peu sur ce qu'il a ramené de ses voyages?
Alors, il y a une chose qui est absolument étonnante et qui se trouve au musée Georges Labille à Toulouse et qui est une tête de Jina, c'est-à-dire une sorte de Bouddha qu'il a ramené de Thaïlande, me semble-t-il, et qui est en pierre et qui est absolument monumentale, qui pèse plusieurs centaines de kilos. Mm-hmm. Donc quand on voit ça, on se dit, mais comment il a fait pour ramener ça, déjà ? Au Muséum d'Histoire Naturelle, il y a des tapas qui sont des tissus, des tapis tissés en fibres végétales. Mm-hmm. Et le tapas qui est conservé à Toulouse, qui vient des Fidji, est un des, je pense que c'est le plus grand qui subsiste en France aujourd'hui, parce que simplement la collection du Mont d'Urville, qui auparavant dépassait celle de Rocco Morel, a été détruite pendant les bombardements de la ville de Caen au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Alors, cette question du classement des objets, de ce qu'on en fait quand on a ramené, on est parti, on avait un commanditaire ou on n'en avait pas, Bénédicte Savoie, on a fait ce qu'on a pu pour faire le plus scientifique possible sur place, et puis après, il faut revenir.
Il faut les fourguer.
Il faut les fourguer, il faut restituer. Comment dire, c'est la restitution auprès des institutions qui vous ont commandé le voyage, et surtout trouver des gens qui seraient susceptibles d'être intéressés par ce qui vous a passionné vous-même, qui a fait que vous êtes parti et que vous avez trouvé cela sur place.
Il y a les institutions, il y a un marché de l'art pour les objets exotiques qui commence à se former dans ces années-là, 1840, 1850. Certains explorateurs font des expositions itinérantes avec ce qu'ils ont rapporté. On commence à voir des choses comme ça. On voit en effet la mise en avant de certaines collections. Humboldt fait ça beaucoup. Il explique que les antiquités mexicaines, il faut vraiment les collectionner parce que c'est un peu comme l'Égypte. D'ailleurs, il dit les hiéroglyphes américains. Enfin, on parle de hiéroglyphes américains. Et c'est en faisant des comparaisons comme ça
qu'on essaie de... équivalente quasiment.
Voilà, on essaye de motiver les musées à partir de ce qu'ils ont. Alors, pour l'Égypte, on leur dit, voilà, l'Égypte, c'est avant la Grèce, donc c'est encore plus les origines de l'humanité. Et puis, une fois qu'arrivent les objets de l'Amérique du Sud, c'est presque comme l'Égypte, donc il en faut pour et le musée américain. Et un musée américain va d'ailleurs être créé au Louvre à ce moment-là, et à Berlin aussi, et dans d'autres, et à Londres par la suite. Donc, il y a un vrai business avec ces objets. Mm-hmm. C'est pas seulement les institutions qui les prennent gratuitement, ils sont aussi vendus à bon prix ou pas. C'est important. Pour revenir juste un instant sur la question des rencontres, je pensais au grand voyage, enfin au petit voyage en fait, à la mesure française, mais qui est un immense voyage scientifique de Wilhelm von Humboldt, Guillaume, donc le frère, au Pays Basque. C'est lui qui a écrit les premiers écrits sur la langue basque. Donc c'est un voyage scientifique. Mmh. Et ça, bien sûr, ça passe que par le contact avec les Basques, et les femmes et les hommes basques, et avec la description de leurs mœurs qui va avec la langue. Et les textes de Guillaume de Humboldt sur la langue basque sont des textes sur les Basques, ses premiers grands textes sur les gens.
Vous avez donné une série de conférences récemment, c'était au printemps dernier au Collège de France, sur ce que vous avez appelé les translocations patrimoniales, c'est-à-dire ces œuvres dont on disait jusqu'à maintenant qu'elles étaient pillées ou qu'elles servaient de trophées dans des conflits, par exemple. Et essentiellement, vous avez beaucoup travaillé sur cet espace géographique européen qui était bouleversé par les conquêtes napoléoniennes, la volonté de Napoléon de créer un grand musée en pillant les musées des princes qu'il conquérait par ailleurs, et puis ensuite la récupération par ces diverses entités territoriales de ce que Napoléon avait récupéré. Est-ce qu'il y avait un parallèle à faire ? Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre ces pillages, ces transports d'œuvres d'art, généralement très bien documentées, européennes, et puis ce que ramènent justement de ces voyages ces explorateurs, ces voyageurs scientifiques est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'ils font le parallèle entre les deux ou est-ce que ce sont deux registres séparés dans leur esprit?
Sûrement pas la même chose, mais oui, il faut faire le rapport et il faut absolument que nos musées tous fassent les efforts de recherche sur les provenances tels qu'ils ont été faits, par exemple, dans les collections d'art contemporain. Il faut faire ça et je le dis du point de vue de Berlin où est en train de se monter le Humboldt Forum, le Forum Humboldt, où seront réunies les collections ethnographiques, ethnologiques allemandes. Et ce Humboldt Forum a déjà beaucoup d'opposants. Si on n'explique pas d'où viennent ces objets, si on rend leur provenance, si on les rend pas transparentes, les musées ne peuvent pas expliquer pourquoi c'est là et du coup personne ne comprend pourquoi il faut les garder. D'ailleurs, la tête de Bouddha de Toulouse nous fait peur.
Oui, c'est une vraie question politique qui a été posée beaucoup au moment de l'inauguration du musée Branly, qui restait très discret dans son étiquetage sur l'origine des objets. C'est vrai que beaucoup de musées scientifiques, anthropologiques et même d'art en Europe sont alimentés des... alors on dit collecte, on peut dire pillage aussi, liés à ces voyages scientifiques et ces voyages savants. Identifier l'origine, c'est reconnaître aussi que ces objets ne sont pas forcément à leur place là où ils sont, et donc il y a toute une question qui se pose.
D'accessibilité pour les propriétaires originaires.
Oui, enfin, les propriétaires originaires ne sont plus là. C'est toute cette question des origines et des restitutions. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec Bénédicte Savoie, le parallèle doit être fait. Et en tant qu'historien, c'est aussi à ça que l'on travaille.
Jean-Philippe Zanco, à propos de ces collections de Roch Morel dont vous parliez tout à l'heure, qui sont à Toulouse, en l'occurrence, ces questions-là sont réglées selon vous? Est-ce qu'il avait bien documenté ces œuvres d'art qu'il avait ramenées de ses voyages pacifiques? Enfin, pacifique, dans l'espace pacifique.
Était-il un pilleur pacifique?
Oui, c'est ça. C'est la question. Jean-Philippe Zanco.
Alors justement, non. Pour revenir à la tête de Bouddha, par exemple, il l'avait achetée. Et en fait, à travers les écrits de Roch Morel, on s'aperçoit qu'il était, il allait vers les gens qu'il rencontrait, les indigènes, disons, ou les naturels, pour reprendre son propre vocabulaire. Et il y allait avec beaucoup de prudence, et c'était pas du tout un pilleur, et c'était plutôt, il achetait. Donc, il achetait lorsqu'il était commandant, il avait la cassette du bord qu'on lui avait donnée pour régler, évidemment, les impératifs et les imprévus. Mais il achetait aussi sur ses fonds personnels. C'est pour ça que ça en fait un personnage intéressant, parce que, il était célibataire, il n'avait pas d'enfant, il n'a pas eu de descendance, et il collectionnait vraiment pour donner. Alors par contre, effectivement, il y a quelque chose qui est un petit peu inquiétant, mais c'est fréquent à l'époque, c'est-à-dire qu'il étiquetait tout, il avait vraiment une manie de la collection et une manie scientifique de tout désigner, tout étiqueter, et c'était écrit avec une petite écriture de pâte de mouche, parce qu'il était myope en plus sur des toutes petites étiquettes. Évidemment, quand on pense aux conditions de stockage de ces objets à la fin du 19e siècle, les étiquettes, il ne reste pas grand-chose. Mmh. Alors, à Toulouse, on a gardé la trace de tout ça. Il y a un fonds qui s'appelait Collection Roch Morel, qui est très très bien identifié quand on va visiter les objets. Mais par exemple, Roch Morel, qui avait fait ses premières études au collège d'Auch, avait voulu donner une partie de ses collections à Auch. Moi, je vis à Auch, j'ai été au musée. Il y a à Auch un très très beau musée d'art précolombien. Et dans les réserves, ils ont étrangement des collections océaniennes, sud-américaines, dont on ne connaît pas du tout l'origine. Mmh. Alors les étiquettes se sont perdues, ça a été stocké, on ne sait pas trop comment, mais effectivement, la traçabilité des objets est très très complexe à reconstituer.
Et vous qui êtes historienne de l'art, justement, Bénédicte Savoie, qui avait travaillé sur cette question de la traçabilité de ces objets, c'est extrêmement intéressant de voir comment les aléas de la conservation ont fait que parfois des documents très précis ont pu perdre leur origine en chemin.
Oui, il faudrait des collections d'étiquettes. En effet, ce que disait Jean-Philippe, c'est important en réponse à cette question de la traçabilité. Si on rend transparente ses origines, on rend aussi transparente la complexité de leur mode d'achat, de leur acquisition. C'est pas toujours des conquêtes, c'est pas toujours répréhensible. Ça peut être des achats, ça
du
peut
statut,
être
du statut finalement de ces objets. Des,
voilà leur statut. Et tout n'est pas de la conquête, tout n'est pas du pillage. Et autant le savoir.
Oui, parce que ça veut dire qu'effectivement, on peut faire la distinction, parce qu'une des raisons pour lesquelles les institutions patrimoniales hésitent souvent à rendre ces collections, la nature de leur collection populaire auprès du plus grand nombre, c'est justement parce qu'elle a peur qu'on leur réclame, par exemple, certaines des choses en disant « c'est le fruit d'une conquête, c'est le fruit d'un pillage et rendez-nous ce que vous nous avez pris il y a 150 ans, par exemple, etc. » Ça fait partie aussi des hésitations des institutions patrimoniales.
Voilà, il y a des cadres différents d'acquisition et ces différents cadres peuvent être décrits. Et quand c'est une expédition scientifique où il y a eu un échange, où on a parlé, voilà, pourquoi pas, c'est une autre histoire.
Hélène Blé.
Oui, oui, tout à fait.
Même si c'est complexe dans le cadre de conquête coloniale, par exemple.
Oui, là, c'est souvent... ce que dit Bénédicte est tout à fait juste. L'intérêt serait de pouvoir restituer les contextes très précis de l'acquisition de ces objets. Bon, moi, je suis aussi sceptique parfois sur les achats que racontent ces voyageurs, parce qu'il faut voir dans quelles conditions étaient faits ces achats.
Est-ce qu'on le fait avec le pistolet sur la tempe?
Non, mais en échangeant des clous contre des...
Mais ça a été fait en Bretagne aussi. Hein,
oui, bien sûr. Les belles cuisines bien sûr, mais de toute façon, cette question de la restitution est infinie. Hein, donc, mais pour un historien, ce qui est intéressant, c'est quand même d'avancer sur ce contexte d'échange ou de collecte ou de pillage pour essayer de mieux comprendre aussi pourquoi les objets sont là ou ailleurs.
Et justement, pour un historien ou pour une historienne aujourd'hui, quel est l'intérêt de se replonger sur... ces collections multiples qui, d'une certaine façon, témoignent d'une époque, c'est sûr, mais qu'est-ce que ça nous dit de l'évolution du regard porté par les scientifiques, par exemple, sur ces périodes-là? C'est-à-dire, j'imagine que les savoirs de l'époque ne sont plus les savoirs d'aujourd'hui, que nos expérimentateurs du XVIIIe au XIXe siècle sont largement dépassés par ceux qui travaillent en laboratoire aujourd'hui sur les mêmes thèmes. Est-ce que cela nourrit, d'une certaine façon, les réflexions des scientifiques de sciences dures, par exemple, aujourd'hui, ou de biologistes, ou des choses comme ça, Bénédicte Savoie?
J'ai une toute petite réponse en forme d'anecdote. J'ai compris pour la première fois à Berlin dans les collections ethnologiques, parce qu'un conservateur nous l'a expliqué, que ces collections avaient été faites par des hommes, bien sûr, au 19e siècle, et que ces hommes n'avaient accès qu'au monde des hommes dans les pays où ils allaient. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans un musée, ce sont des armes, ce sont des costumes d'hommes, et tout ce qui fait la vie des femmes, l'autre vie est invisible dans le musée. Et ça, par exemple, une fois qu'on le comprend, on voit le musée tout à fait différemment. Voilà, c'est une petite réponse sur le regard
Hélène Blé.
Oui, mais alors il y a plusieurs points de vue pour des scientifiques d'aujourd'hui, mais c'est à eux qu'il faudrait demander. Hein. Il y a un point de vue documentaire, parce que souvent, je pense notamment aux plantes, aux herbiers qui ont été collectés, ça permet d'identifier, et aujourd'hui c'est des problématiques très actuelles, d'identifier des espèces.
La diversité, voilà.
Et il y a aussi, d'un point de vue plus réflexif, je pense, pour les scientifiques d'aujourd'hui, comprendre comment se sont formées les disciplines, quels ont été les problèmes qui se sont posés, comment se sont formées aussi les collections sur lesquelles on a travaillé, on a classé, on a ordonné le monde, c'est important.
Jean-Philippe Zanko, sur ce point-là, puisque vous travaillez beaucoup avec l'Académie de Marine et avec les musées qui sont afférents, est-ce que justement ces musées-là réfléchissent à la façon dont on peut tirer parti de ces collections parcellaires ou totales qui ont été collectées dans ces 18e, 19e siècles?
Alors moi, je ne travaille pas trop sur la partie musée.
Mais vous devez discuter avec vos collègues, j'imagine, là-dessus, non?
Oui, effectivement, j'avais écrit un article avec une collègue qui travaille au Quai Branly maintenant sur les collections Rocamorel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, c'est... Alors déjà, il y a la question de la visibilité des collections. Il y a énormément de collections, par exemple à Toulouse, une partie de la collection qui sont en réserve, et par manque d'étiquetage, etc., on ne sait pas forcément quoi en faire.
Qui ne sont pas restaurées par ailleurs?
Oui, bien sûr. Et puis il y a des pièces qui sont extrêmement fragiles. Il y a des pièces qui se sont perdues naturellement. Et donc effectivement, la question de la mise en valeur continue à se poser. Alors, sous quelle forme en plus on peut mettre en valeur ce genre de pièces? La muséographie. Moi, je suis pas un muséographe de profession, mais je sais que la muséographie du Muséum d'Histoire Naturelle a parfois été, je parle de Toulouse, a parfois été critiquée pour son côté un petit peu austère, c'est-à-dire que on a les objets qui sont présentés, on a l'origine de l'objet, mais c'est souvent ce qu'on reproche à la muséographie contemporaine. L'objet est pas forcément replacé dans son contexte. ce qu'on peut faire après dans le cadre d'exposition. Voilà.
C'est ce que vous aviez fait avec les Humboldt l'année dernière, donc à l'Observatoire de Paris. C'était comprendre le contexte intellectuel dans lequel deux frères partent chacun sur des territoires différents à la conquête d'un savoir nouveau.
C'est en effet ce qu'on a essayé de faire, de contextualiser ou de montrer comment ces Européens de la fin du XVIIIe siècle s'étaient appropriés le monde avec leur regard et leur culture d'Européens. Mais on est aussi parti à la recherche des étiquettes. Et là, vraiment, mon ami et collègue David Blankenstein est parti dans les collections ici à Paris à rencontrer des collègues conservateurs très coopératifs qui l'ont aidé à retrouver les étiquettes sur les bonnes pierres. Et en effet, on a ressorti un très grand nombre d'objets rapportés par Humboldt, Alexandre, ou même renvoyé de Berlin, puisque après il a continué d'envoyer de Berlin à Paris des quantités d'objets, et c'est des objets qui étaient en effet en réserve dans des caisses pas identifiées. Donc ça a été aussi une aventure pour nous en termes de provenance et de traçabilité, oui.
Hélène Blais, qu'est-ce qu'il reste à faire, non pas à découvrir, puisque il y a toujours des découvertes, puisque nous interrogeons le passé de façon totalement différente, mais justement dans la popularisation de ces personnes que vous croisez dans vos archives, dans la façon dont elles peuvent réapparaître des archives, les faire ressortir et les faire reconnaître à la fois leurs préoccupations, les préoccupations qui les avaient poussées à partir, mais aussi le monde qu'elles ont croisé.
Qu'est-ce qu'il reste à faire?
Une grande expo, par exemple.
Énormément de choses, oui. Une grande expo, plusieurs grandes expos, mais puisque vous m'y invitez, je vais mentionner tout de suite une exposition qui ouvrira au MUCEM à Marseille en janvier prochain, et alors qui porte sur l'Algérie et sur les représentations de l'Algérie, notamment la cartographie qui a été initiée par le département des cartes et plans, Eliane Achat. Et donc là, l'idée, c'est de montrer au public qu'effectivement, la connaissance de l'Algérie, c'est aussi une coproduction, hein, et de faire surgir, notamment des cartes, hein, ce qui apparaît des intermédiaires, du savoir qu'on peut dire aussi vernaculaire, même si le terme pose question, et pourquoi...
Des informateurs, pourrait-on dire.
Des informateurs, des go-betweens, des voilà. On a toute une liste, avec toujours quelqu'un qui sera opposé à l'un des termes, mais et l'idée, c'est de montrer ça, de donner à voir aussi dans ces documents, alors qui sont des documents iconographiques, hein, cartes, œuvres d'art, etc. Voilà, cette co-construction des savoirs.
Et ça, c'est donc à partir du mois de janvier au MUCEM à Marseille.
Exactement.
Et on vous y retrouvera sûrement à ce moment-là. Merci à tous les trois. Merci à vous, Jean-Philippe Zanco. Et merci nos camarades et collègues de Radio France à Toulouse qui vous ont accueillis dans leur studio. Merci à vous, Bénédicte Savoie, d'être venu, non pas de Berlin, mais entre Berlin et Paris, à ce micro. Et merci à vous, donc Hélène Blais, d'être venue. Je rappelle, Hélène Blais, que votre dernier livre, c'est Mirage de la carte, l'invention de l'Algérie coloniale, c'est chez Fayard en 2014. Et pour votre part, Jean-Philippe Zanco, eh bien, vous êtes auteur des ministres de la Marine sous le Second Empire. Et pour vous, on peut trouver le catalogue des Humboldt. Il est publié par PSL, Paris, Sciences, Lettres, c'est cela, Bénédicte Savoie. Merci à tous les trois.
Merci.
Cette émission a été préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marseille. Nous avions avec nous à la technique aujourd'hui Emmanuel Morse-Duncan et à la réalisation Anne Fleury. Voilà pour cette dernière émission de notre série de cette semaine sur l'histoire du voyage. Vous pouvez bien entendu réécouter cette série d'émissions sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de la Fabrique consacrée à l'histoire de la Révolution française.